Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa réflexion sur le silence. Le silence, condition ou corruption de la parole publique, en compagnie de Marilyn Maezo, philosophe, et qui vient de publier un ouvrage intitulé « Les conspirateurs du silence » et sur la jaquette duquel on peut lire « Pourquoi l'insulte et l'attaque personnelle prennent-elles si facilement l'ascendant sur la volonté de débattre loyalement ?» Les réseaux sociaux ont un effet paradoxal, parce que à la fois, ils donnent la parole, et surtout un écho, à des personnes isolées, à des personnes dont la parole n'aurait eu aucun poids, songeons à MeToo, mais en même temps, ils affectent, ils abîment, ils dégradent le débat public, comme s'ils ajoutaient un bruit, parfois assourdissant, aux échanges qui constituent le débat public. D'où la nécessité de réfléchir sur les conditions de la parole publique à l'heure des réseaux sociaux, ce que nous ferons en compagnie de Marilyn Maezo, qui vient de publier encore une fois « Les conspirateurs du silence », livre que vous trouverez à la bibliothèque Le Forum Folio. Bonsoir Marilyn Maezo.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, je ne résiste pas, pour commencer notre conversation, à lire la phrase d'Albert Camus que vous avez mis en exergue. « Nous étouffons, dit-il, nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. » Ce silence et la fin du monde, Marilyn Maezo.
Ce silence est la fin du monde, c'est-à-dire c'est la fin du commun, en fait. Puisqu'il ne peut pas y avoir de communauté sans dialogue, il ne peut pas y avoir de commun dans un monde où les gens ne se comprennent pas. Où il n'y a pas un terrain, comme on dit, un terrain commun minimal, sur lequel on puisse se rejoindre tout en étant en désaccord les uns avec les autres.
Mais on est pourtant aujourd'hui dans une société hyper connectée et dans laquelle il y a énormément de moyens de communication. Il y a plusieurs réseaux sociaux, il y a le mail, parlons pas du téléphone, parlons pas du portable, des textos. Jamais on a autant communiqué.
Jamais on a autant communiqué, mais la question c'est est-ce que communiquer et dialoguer c'est la même chose ? Parce que ça n'est pas parce qu'on dispose de moyens de communication en quantité et en facilité qui sont inégalés par rapport à ce qui pouvait exister auparavant, qu'on parvient pour autant à dialoguer d'une meilleure manière. Je pense qu'au contraire, le fait d'être en permanence dans la communication, le fait de n'être jamais déconnecté, le fait de ne jamais prendre du recul...
De ne jamais faire silence.
Voilà, de ne jamais prendre le temps de la réflexion, qui est un temps de silence, en fait, peut être plus nocif au dialogue que le nourrir.
Mais alors, en tant que philosophe, vous avez une attitude paradoxale, Marilyn Maezo, parce que vous avez décidé d'expérimenter, vous avez décidé d'y être, vous avez décidé de tenir un compte Twitter et de tweeter et de voir ce qui se passait sur l'oiseau bleu ou avec l'oiseau bleu.
Voilà, si j'ose dire, j'ai fait un peu mon Lévi-Strauss, je me suis dit que pour pouvoir observer un phénomène comme Twitter, qui est un phénomène vivant, il fallait avoir une démarche qui, en un sens, pouvait relever un petit peu plus de la démarche de l'ethnologue que la démarche du philosophe purement théoricien. Il faut dire que j'avais jusqu'à présent adopté plutôt la démarche inverse, c'est-à-dire celle du petit village gaulois qui résiste encore et toujours.
De l'avantage, je me retire du bruit
social. Je n'avais aucun compte sur aucun réseau social, pas même Facebook, avant d'ouvrir un compte Twitter. Mais disons que je me suis intéressée à Twitter plutôt qu'à n'importe quel autre réseau social, puisqu'il en existe quand même beaucoup, hein, parce que Twitter, dans sa logique, dans sa structure, donc sur le plan disons théorique, hein, après on va voir ce que ça donne en pratique, me semblait contenir toutes les conditions de possibilité d'un dialogue extrêmement fécond, puisque
intensifié en quelque sorte.
Tout à fait, c'est une sorte d'agora virtuelle. Oui. Je dis bien encore une fois en principe, puisque n'importe qui peut intervenir dans la conversation. On peut lancer une conversation sur n'importe quel sujet. Comme il y a ce phénomène d'hyperconnectivité, si vous voulez, on peut intervenir de tous les coins du monde et aussi de toutes les spécialités, de tous les métiers, de tous les domaines. On n'est pas dans l'entre-soi d'une discipline ou d'une carrière. carrière.
Ni dans le face-à-face d'un dialogue.
Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui était assez positif. Et puis d'autre part, il avait le format en lui-même qui m'avait intéressé. Le format au départ en 180 caractères, qui est passé en 240 depuis, mais qui reste quand même un format assez limité, qui faisait penser un petit peu à un format de réplique théâtrale, en fait. On est obligé d'être concis, on ne peut pas monopoliser la parole. Donc je me disais que ça pouvait être propice à un échange, si vous voulez.
On ne fait pas des cerfs de philo sur Twitter.
Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de m'inscrire.
Et vous y étiez sur votre nom propre ?
Au départ, non. Dans un premier temps, je m'y suis inscrite sous pseudonyme, parce que j'étais professeure et que je savais que les élèves s'aventuraient sur les réseaux sociaux, et que je me suis dit que ça serait tout de même bien de pouvoir garder un petit
C'est ça, il y a une extra-classe en quelque sorte. Il y a la classe réelle, et puis il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais qui concerne votre classe, qui vous concerne vous et les
tout
autres profs.
Fait. Donc au départ, j'avais choisi de parler sous pseudonyme, et puis j'ai fermé ce compte-là, parce qu'à un moment donné, quand je me suis vraiment rendu compte de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, je n'ai plus été capable de parler sous pseudonyme. J'ai ressenti le besoin, en fait, de parler sous mon propre nom, parce que, et je dis bien que je parle d'une catégorie de personnes qui utilisent le pseudonyme, parce que tout le monde ne fait pas ça, j'ai pu rencontrer un très grand nombre de personnes chez qui le pseudonymat servait un petit peu de bouclier ou de masque, mais leur permettant de désinhiber un certain nombre de comportements qu'ils n'auraient jamais eu sur leur nom propre.
Ben oui, parce que la coprésence de l'autre oblige. Le fait de se savoir sur le regard, quoi, c'est l'échange social, celui que nous connaissions jusqu'à une date très récente, on se parle et on est inhibé. Et je constate d'ailleurs que cette désinhibition, elle a atteint tous les registres du discours et de la parole publique. Hein, quand on dit « je vais parler sans embâge une droite décomplexée ». Une droite décomplexée, ça veut dire aussi une droite désinhibée.
Tout à fait. C'est le principe même, en fait, hein, c'est la logique qu'on retrouve dans beaucoup de débats en dehors des réseaux sociaux, hein, sur les plateaux télévisés, à savoir l'absence de limites, par exemple, dans la manière de s'adresser à l'autre. On pouvait penser qu'il y avait un respect minimal qui consistait, par exemple, à être en désaccord sur le fond, sur les idées, mais sans s'attaquer à la personne. Aujourd'hui, on se rend compte que très rapidement, lorsqu'il y a un débat en particulier sur les grands sujets de société qui créent des clivages assez nets, il y a une volonté de ranger les gens dans des catégories infamantes.
Oui, alors, mais Marilyn Maizeau, vous observez dans votre ouvrage que les réseaux sociaux correspondent à une démocratisation de la parole publique, on pourrait dire. C'est-à-dire que jusqu'à une date récente, là aussi, les échanges, la parole publique était l'apanage des happy few, d'un petit nombre de personnes qui étaient capables de prendre la parole en public, capables d'essayer de convaincre. Et c'est fondamentalement plutôt une bonne chose pour la parole publique que chacun puisse y accéder.
Absolument. De ce point de vue-là, la grande avancée qui a été rendue possible par les réseaux sociaux, un petit peu déjà avant les réseaux sociaux, par ce qu'on a pu appeler les forums, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont quand même accéléré ce processus de manière exponentielle, c'est de permettre à tout un chacun d'intervenir sur n'importe quel sujet, indépendamment de sa classe sociale, de son métier, ou de n'importe quel autre critère arbitraire. Et pour beaucoup de personnes qui, jusqu'à présent, par exemple, pouvaient ressentir une frustration vis-à-vis de la composition, disons, sociologique des personnes qui interviennent dans les médias, il y a quand même une sorte de revanche, en fait, il y a un sentiment de revanche qui est pris, qui consiste à se réapproprier une parole populaire, par exemple, contre ceux qui passent leur temps à prétendre parler au nom du peuple.
On est déjà dans l'opposition peuple-élite. La revanche est une passion triste, Marine Maizeau.
Tout à fait, mais malgré tout, dans mon observation, qui vaut ce qu'elle vaut, mais de ce qui se passe sur Twitter, c'est une passion triste que j'ai croisée très régulièrement et que je continue à croiser, à savoir l'expression déjà d'une méfiance vis-à-vis des médias, d'une critique d'un regard unique, des médias traditionnels, d'un regard unique ou d'un angle unique, et une volonté, en fait, de récupérer une parole que beaucoup de personnes ont le sentiment qu'on leur a prise, en fait. en s'exprimant à leur place et en essayant de niveler toutes les aspérités critiques que leurs propres paroles pouvaient contenir.
Mais est-ce qu'ils seraient exprimés comme ça s'il n'y avait pas eu cette condition particulière du dialogue et de la parole publique, qui est une parole qu'on adresse à des milliers de personnes sans jamais les voir? C'est-à-dire, on est sorti des conditions spatialisées d'un espace public. C'est une parole sans espace public, Marilyn Maeso.
Oui, et ça, j'ai envie de dire, c'est le côté un petit peu pharmacon hein, des réseaux sociaux, en tout cas de Twitter.
Alors, pharmacon, c'est-à-dire
ce terme grec qui a cette particularité incroyable, qui est de vouloir dire à la fois une chose et son contraire. En l'occurrence, un médicament et un poison, ou un poison et son remède. On vient de le dire, les réseaux sociaux, par beaucoup de personnes, sont pensés comme un remède à une sorte d'accaparement de la parole publique par, comme vous l'avez dit Antoine Garapon, par les happy few. Mais en même temps, cette démultiplication des foyers d'expression a pour effet pervers, en fait, de créer un milieu d'échange, mais qui est un milieu sans espace, en fait. Je pense toujours, hein, quand je réfléchis à ces questions, à la formule de Pascal qui disait « le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Et en fait, Twitter me donne un petit peu le même sentiment, mais à la place du silence, c'est le brouhaha, en fait. Le brouhaha dans une absence d'espace où, du coup, il n'y a pas d'écho à nos propres paroles qui pourrait, du coup, nous amener à réfléchir dessus. Il n'y a pas le visage d'autrui qui pourrait constituer un repère et une limite nous permettant de savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire ou adapter notre discours. Et donc, en fait, cette démultiplication des foyers d'expression se traduit aussi, du coup, par une absence, en fait, de point d'Archimède, qui est quand même la condition de possibilité pour qu'on ait un socle de débat commun.
C'est ça. Mais alors, vous avez employé comme une expression, qui est une expression de Camus d'ailleurs, les conspirateurs du silence. C'est-à-dire qu'il y a ce paradoxe dans la communication avec les réseaux sociaux, qu'à la fois des paroles sont échangées, mais dans un bruit énorme. Un bruit, c'est pas des paroles, le bruit, c'est une masse de paroles qui devient indistincte.
Tout à fait, le bruit, c'est une manière, en fait, de faire en sorte que tout le monde se parle, mais de façon à ce que personne ne s'entende, en fait.
C'est ça.
Tout le monde parle, mais personne ne s'écoute, et donc personne ne s'entend.
Comme s'ils parlaient pour eux-mêmes.
Tout à fait. Et c'est cette image que j'ai essayé de traduire à travers la métaphore de la conspiration du silence, que j'emprunte effectivement à Camus, un texte de 48 qui s'intitule « Le siècle de la peur », où Camus l'emploie pour décrire une sorte d'omerta qui existe alors, hein, puisqu'on est en pleine guerre froide, au début de guerre froide, qui existe dans le débat public concernant l'opposition entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Il explique que d'un côté, on a ceux qui disent « vous ne pouvez pas critiquer l'Union soviétique parce que ça serait faire le jeu de démocratie libérale, mais dans leur aspect, disons, esclavagiste, dans leur aspect colonialiste, dans leur aspect oppressif vis-à-vis des classes paupérisés. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui disent « vous ne pouvez pas critiquer les démocraties libérales parce que, bah justement, ça serait faire le jeu de la tyrannie totalitaire. »
Mais ce sont deux échappatoires, Marilyn Maeso, deux échappatoires à ce qu'il y a un véritable échange argumentatif.
Et si le contexte, bien sûr, historique a changé, la logique de la conspiration du silence, à mon sens, a perduré, simplement sous d'autres modalités, puisque, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, puisque c'est aussi le cas dans le débat public de manière générale, et sur les plateaux médiatiques, on a cette façon, en fait, d'organiser un débat. Donc on s'imagine qu'il va y avoir un véritable échange contradictoire, et malgré tout, ce qui se passe, c'est qu'on a un entrechoquement, si vous voulez, de blocs idéologiques, sans qu'il y ait à aucun moment un véritable échange. Les gens parlent, mais on ne s'entend pas.
Mais ce qui est intéressant par rapport à l'exemple que prenait Camus sur la période stalinienne, où si vous dites ça ajoute à la dénonciation de l'Union soviétique, si vous faites ça, cela. Et à chaque fois, c'est deux échappatoires. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette tension, Marilyn Maeso, on n'a plus cette tension comme du temps de la guerre froide, qui était également une guerre froide des idées.
Oui, alors on n'a bien sûr pas la logique de la guerre froide avec tout ce qu'elle implique sur le plan géopolitique. Néanmoins, je ne suis pas certaine que l'on ait dépassé cette dimension de polarisation idéologique. dans les débats, avec ce qu'on pourrait appeler un phénomène de clanification ou un esprit de corps, si vous voulez. Lorsque vous avez un débat sur des questions sensibles telles que le sexisme ou le racisme ou l'homophobie ou des questions de cette nature, on va avoir généralement une tendance à se recroqueviller autour d'un groupe ou d'un noyau idéologique avec des positions bien arrêtées, qui va faire que on va être incapable de saisir, par exemple, les nuances de ce débat. L'idée, c'est que on va devoir prendre position, mais en bloc, autour d'un certain nombre d'idées acceptées dans ce bloc idéologique, si bien que si à un moindre moment il y a une divergence sur un point particulier, il va y avoir un phénomène, si vous voulez, d'ostracisation.
Alors vous disiez, Marilyn Maezo, que on n'est plus dans la période de la guerre froide, et pourtant le désir de marginaliser l'autre, de ne pas l'écouter finalement sous prétexte de dialogue, lui il reste intact.
Totalement, puisque le phénomène que Camus décrit en parlant de conspiration du silence, ça n'est pas un phénomène qui a été provoqué par le contexte de la guerre froide. Ce phénomène a simplement exacerbé une tendance à la polarisation qui est une tendance anthropologique fondamentale et atemporelle qu'on retrouve à toutes les époques sous diverses modalités.
D'ostraciser l'autre.
Tout à fait, d'ostraciser l'autre, mais d'ostraciser à travers l'autre, en fait, la nuance.
Mais Marilyn Maezo, il y a une autre chose qui a changé depuis la guerre froide et qui va avoir une extraordinaire importance. C'est qu'aujourd'hui, la France est devenue une société multiculturelle, je ne sais pas si c'est multiculturelle, mais en tout cas, elle a la présence de plusieurs communautés. Jérôme Fourquet parle d'archipélisation de la France. Ça n'existait pas du temps de la guerre froide et ça a changé beaucoup, si ce n'est la tonalité, les thèmes du débat public.
Effectivement, cette modification de la composition à la fois culturelle et sociologique de la France a amené un renouvellement des questions qui sont au centre, au cœur du débat public, mais notamment qu'on vient d'aborder notamment il y a quelques instants, les questions notamment qui tournent autour des droits des minorités.
Bah oui,
forcément.
Oui, qui n'étaient pas du tout présentes pendant la guerre froide. C'était
absolument
strictement
pas
idéologique.
Absolument pas. Disons que le paradigme idéologique qui était au cœur de la guerre froide était un paradigme où on avait une opposition qui était d'essence essentiellement sociale ou socio-économique, à savoir la lutte des classes. Hein. C'était ce paradigme-là qui était en jeu.
Et qui culpabilisait les intellectuels de ne pas faire partie de la classe ouvrière, où ils devaient s'excuser continuellement, ce qui ajoutait à l'invective, souvent d'ailleurs.
Totalement. Hein. C'est une logique qu'Albert Camus décrivait, oui, sans le dire dans son roman La Chute, en évoquant la figure du juge pénitent, à savoir celui qui s'autoflagelle, mais pour mieux pouvoir juger ses contemporains, en l'occurrence ceux qui appartiennent à sa propre classe.
Parce qu'il y a une quête de pureté dans cette invective, et qui serait très contemporaine d'ailleurs, Marilyn Maezo, c'est-à-dire que cette invective, cette volonté de salir l'autre, disons-le quand même, parce que c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que vous avez retrouvé sur les réseaux sociaux, et ce qu'on voit d'ailleurs souvent sur cette augmentation de la violence. Elle cache peut-être un désir de pureté sociale, voire de pureté individuelle.
C'est une question qu'on peut se poser, un désir de pureté, peut-être même plus précisément de purification, parce qu'il y a un sentiment d'impureté. Cette volonté d'expier en fait une faute qui serait liée à une extraction sociale ou à une couleur de peau ou à un autre élément qui constituerait ce qu'on appelle communément aujourd'hui un privilège, privilège de classe, privilège de race, etc., et le fait de salir l'autre, effectivement, peut être une manière de, en le rabaissant, parvenir à soi-même s'élever un petit peu. Donc il y a un phénomène presque, j'ai envie de dire, de vase communicant, en fait, hein, dans ce jeu un petit peu pervers qu'on trouve sur les réseaux sociaux.
Mais est-ce qu'on a une idée, Marilyn Maezo, de l'origine, il y a les trolls, il y a le phénomène des trolls, c'est-à-dire de ceux qui cherchent justement à pourrir l'autre, pour prendre une expression contemporaine. Mais est-ce qu'il y a toujours derrière ça une revanche sociale, vous pensez?
Ça dépend ce qu'on appelle troll, hein, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelques temps dans une autre émission. Quand on parle du troll, le problème c'est que le troll est un petit peu lui-même une étiquette ou une forme d'essentialisation, parce que derrière cette étiquette il y a quand même une grande diversité de profils, hein. Il y a des trolls, oui, et il y a des raisons de troller, on ne trolle, oui, pas tous, oui, pour la même raison. J'ai même envie de dire que non seulement il y a des trolls, non seulement il y a différentes raisons de troller, mais le problème avec l'image du troll aussi parfois c'est qu'on s'imagine que ce sont des individus types et c'est une manière de se mettre un petit peu soi-même à l'écart en considérant que le troll, c'est l'autre.
De soi par rapport à soi.
Voilà, de se dire le troll, c'est l'autre, l'autre est un troll, et du coup de ne pas être capable de prendre le recul nécessaire pour considérer que soi-même, parfois, on a des comportements de troll.
Mais Marilyn Maezzo, ça, c'est vraiment le phénomène de l'anonymat, du pseudonymat. Oui. C'est-à-dire que le pseudo, c'est beaucoup plus simplement une protection vis-à-vis de l'autre. C'est aussi un dédoublement de soi par rapport à soi.
Totalement, c'est un petit peu un phénomène, alors mutatis mutandis, qui rend possible ce que d'autres recherchent dans le théâtre ou dans le jeu de l'acteur. En fait, l'acteur, ce qu'il peut apprécier dans son métier, c'est la capacité qu'il a à avoir d'autres vies, à démultiplier les vies qu'il peut avoir, incapable qu'il est, ou refusant en tout cas de se contenter de la sienne. Le troll, et c'est l'un des profils en tout cas qu'on retrouve, et j'ai peut-être envie de dire que c'est un petit peu le profil originel. Hein. L'image la plus classique du troll, ça va être l'individu qui peut être frustré par son existence, par son quotidien, ou souvent il est contraint par une forme d'autorité qu'il subit. Il arrive chez lui le soir et littéralement, il se lâche et il utilise les réseaux sociaux comme une forme d'exutoire pour vider toute cette violence qu'il a contenue en lui.
On retrouve le thème de la désinhibition. Il se lâche,
c'est-à-dire totalement. Il y a des contes notamment qui m'ont fasciné tout particulièrement, que j'ai suivi à cause de ce phénomène. Lorsqu'on remontait ce qu'on appelle la TL, c'est-à-dire la timeline, le fil Twitter, l'ensemble des tweets qu'ils avaient fait dans les derniers jours, il n'y avait que des injures à différentes personnes. Hein. Ouais. Mais on avait presque l'impression qu'en fait, ils visaient un petit peu au hasard. Le but, c'était de pouvoir insulter, verser dans la violence verbale extrême, comme si finalement ils avaient contenu ça en eux toute la journée, qu'ils avaient besoin que ça sorte pour pouvoir le lendemain reprendre leur vie normale.
Se défouler.
Tout à fait.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing well.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Et matière à penser, toujours avec vous, Marilyn Maezzo, où on réfléchit sur le paradoxe du bruit et du silence à l'ère des réseaux sociaux. Et vous avez choisi, bien sûr, de nous faire entendre cette chanson de Simon & Garfunkel, The Sounds of Silence, les sons du silence. Un paradoxe
qui est extrêmement parlant, parce que le silence est un petit peu la condition de la sonorité. Le son ne peut se faire entendre que dans un silence, en fait. Hein, par exemple, je pense notamment à travers la métaphore musicale, le silence dans un morceau est aussi important que les notes, parce que c'est ce qui peut donner son rythme et sa structure à un morceau. De la même manière, dans un débat où il n'y a pas de silence, où la parole finalement se déverserait comme un flux discontinu, créerait un tel, et d'ailleurs je parle, c'est drôle, au conditionnel, alors oui, que oui, ce débat existe, oui, hein, ça s'appelle les réseaux sociaux, créer un tel effet de saturation que on se retrouve dans l'incapacité d'entendre les sons, en l'occurrence les paroles qui sont produites.
Moi je pense à ce qui commence, les trois coups qui coupent le temps avant une représentation théâtrale, où je pense bien sûr à une audience, où je pense à une session de parlement, à tout acte de parole publique.
Ou un cours avec la sonnerie.
Ou un cours avec la sonnerie. Où à chaque fois, il faut un rituel pour marquer une césure dans le temps et un moment où on fait silence. Vous parlez de l'école, on rentre dans les rangs en silence. Silence dans les rangs, c'est devenu... Mais c'est extrêmement important pour montrer qu'il n'y a pas de parole publique sans un rythme. Sans un rythme qui montre et qui détache la parole publique de la parole ordinaire, de celle des réseaux sociaux. Par exemple, comme si les réseaux sociaux avaient, ici comme ailleurs, effacé cette distinction entre l'espace privé et l'espace public. Lorsque le président Trump quitte la France après le 11 novembre et qui fait une série de tweets dont certains sont très désobligeants à l'égard d'Emmanuel Macron, on ne sait pas à qui s'adresse. Ce n'est pas une parole publique, ça émane quand même du chef de l'État le plus puissant du monde. Et c'est là où il y a une indifférenciation de l'espace qui augmente cet effet de bruit, Marilyn Maizeau.
Oui, alors de manière plus générale, hein, vous parliez du besoin de rentrer en fait dans un cadre pour rendre possible le phénomène du dialogue et de la parole. Tout ça a à voir avec au départ, la pensée. On ne peut pas penser en dehors d'un cadre. Il faut être capable d'avoir un minimum de structure pour pouvoir, par exemple, élaborer un raisonnement et pour pouvoir, à l'inverse, comprendre un raisonnement.
Mais, oui, tout à fait. Mais vous parlez en philosophe, donc c'est le raisonnement qui vous intéresse. Moi, en tant que juge, c'est plutôt la question de la justice qui m'intéresse. Oui. J'ai appris d'ailleurs en vous lisant qu'il y avait une figure nouvelle qui était apparue, qui était le guerrier de la justice sociale.
Ah,
c'est tout un programme, ça.
Le fameux SJW,
oui,
Social Justice Warrior en anglais.
Oui, c'est-à-dire.
C'est-à-dire, c'est un terme qui renvoie à un individu qui se donne pour fonction de rendre la justice par des actions quotidiennes, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui renvoie aussi à un phénomène d'ailleurs dont Barack Obama a parlé il n'y a pas très longtemps, de manière fort pertinente, le phénomène en fait de ce qu'on appelle la call-out culture, qui veut dire le fait d'interpeller les autres pour les mettre face à leurs erreurs et pour leur demander en fait d'expier. Et Barack Obama
expliquait d'avouer
leur faute et de reconnaître en fait qu'ils sont coupables.
C'est ça. Ce qui montre très bien, Marilyn Maizeau, c'est cette dimension du registre punitif, du registre extrêmement moral. Parce que l'expiation, c'est un terme qu'on n'utilise plus dans la justice judiciaire depuis des siècles. Et je suis frappé de ce désir de justice qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Je pense au vigilantisme, par exemple, c'est-à-dire cette volonté de punir directement son voisin qui s'est mal garé, et c'est-à-dire un désir de justice, mais qui ne trouverait plus de cadre pour se structurer.
En fait, c'est un désir de justice, mais un désir de justice qui trouve un cadre, mais un cadre quand même assez problématique, pas très contraignant, mais un cadre au sens d'un lieu qui est un cadre théâtral. Puisque c'est une théâtralisation, c'est pas simplement qu'on s'indigne, on s'indigne face à un public, on interpelle un tel et un tel face à un public et celui de ses abonnés.
Est-ce que c'est pas plutôt une mise en contact directe avec un public sans l'estrade, sans ce petit vide, sans la rupture sémiotique,
on dirait. Ça serait comme une scène de théâtre mais sans scène.
Ah bah oui, c'est ça.
Qui flotterait dans le vide.
Bien sûr, bah oui, mais là on retrouve le même paradoxe, c'est que un théâtre qui tourne dans le vide va vite arriver à ce résultat qui, moi, me perturbe beaucoup, parce qu'on le retrouve, on l'a retrouvé dans l'affaire Polanski, qui a été accusé par les réseaux sociaux et par une émission de Mediapart, qui a eu le bruit que l'on sait, et qui est très intéressante à plusieurs égards, qui a été très intéressante parce que le témoignage qui a été diffusé sur Mediapart était un témoignage où, dans le fond, les différentes personnes qui étaient présentes, on va s'intéresser à Louis Plenel, il était à la fois le procureur, le juge, le défenseur, le médiateur, il jouait plusieurs rôles. Et donc, il y a c'est là où je voulais en venir, après ce long développement, c'est l'indétermination des rôles. Quand on est sur scène, il y a des acteurs et des spectateurs. Il y a une sécurisation de la condition de spectateur et de celle d'acteur. Il n'y a plus ça sur les réseaux sociaux.
Non, parce que ça implique une topographie où effectivement chaque individu ou groupe d'individus est à une place qui est liée à une fonction, en l'occurrence quand on parle du tribunal, puisque c'est cette image-là qui nous vient. Pareil pour le théâtre d'ailleurs avec les acteurs et le public. Dans le cas des réseaux sociaux, l'absence en fait d'espace fait que vu qu'il n'y a pas de scène, il n'y a pas de séparation entre le public par exemple et les acteurs. Donc en fait, il n'y a ni public ni acteur. Chacun est appelé à intervenir. Et ça crée effectivement un phénomène d'indifférenciation où il va y avoir un phénomène de, enfin, un effet boule de neige d'entraînement de masse. Quelqu'un lance une accusation et chacun va venir la nourrir en se faisant l'écho en fait de cette accusation jusqu'à ce que ça prenne des dimensions extrêmes.
Alors Marilyn Maezo, vous vous êtes intéressée à cette forme d'invective finalement de polémique qui écrase le dialogue sur les réseaux sociaux, mais votre analyse va plus loin parce que vous dites, on voit réapparaître dans les invectives, dans le contenu même, un phénomène qui est effectivement très préoccupant, qui est cette essentialisation de l'autre. L'autre devient une essence et une identité unique, absolue, et auquel il est réduit en quelque sorte.
En effet, tout à l'heure on parlait de cadre et notamment de la structure nécessaire à toute pensée, puisqu'il faut pouvoir avoir une ligne directrice pour réussir à construire une réflexion. Et de ce point de vue-là, je vais venir du coup si vous voulez, la généralisation, le fait de créer par exemple des concepts sous lesquels on peut ranger un ensemble d'individualités, est une nécessité pour pouvoir se repérer dans le monde. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, une sorte quand même un endroit où on puisse trouver des repères à la fois à travers le langage et à travers la pensée. Le problème de l'essentialisation, c'est quand cette logique de généralisation devient autotélique.
C'est-à-dire autotélique.
Devient à elle-même sa propre fin, à tel point que ces catégories qui normalement ont pour fonction de nous aider à nous repérer dans le réel se substituent aux objets qu'elles sont censées contenir, pour finalement devenir des sortes de fosses dans lesquelles on jette les individus dont on veut se débarrasser à peu de frais.
C'est-à-dire quand il n'y a plus d'espace, il faut des repères, et les repères on les trouve dans les personnes, dans une personne qui devient un signe en quelque sorte, un pur signe.
En effet, on n'a plus d'espace, mais par contre on a des sortes de bocales, ou des seaux, ou prenez n'importe quelle image, des tiroirs, dans lesquels on peut ranger chaque individu en fonction d'une caractéristique qu'on lui attribue à tort ou à raison, et à laquelle on le réduit intégralement. Les étiquettes qui reviennent très régulièrement dans le débat public, qui le sature à tel point que elle rend impossible finalement la réflexion de fond. Les plus courantes, ça va être facho, réac, à l'inverse féminazi, islamo-gauchiste, des termes qui en fait finissent par être vidés de leur substance parce que à force de vouloir dire tout et n'importe quoi, ils ne renvoient plus à rien sinon à une image négative qu'on cherche à coller à l'autre justement pour en faire un individu avec lequel on ne peut pas débattre.
Et à brouiller le débat, parce que dans le fond l'idée du bruit, ce qui distingue le bruit du son, c'est que le bruit, c'est quelque chose d'indéterminé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas identifier.
Totalement. C'est le paradoxe de ces catégories. C'est que les catégories, normalement, elles ont pour fonction de déterminer, de créer des repères qui permettent de structurer la pensée, donc le débat. Et là, on a des catégories, en fait, qui ont pour fonction de produire l'effet totalement inverse, à savoir de créer une sorte d'indifférenciation entre les individus, où on va se retrouver avec des individus qui, lorsqu'on réfléchit vraiment, qu'on les écoute vraiment, qu'on tient compte de ce qu'ils disent réellement, on s'aperçoit qu'il y a énormément de différences entre eux, qui sont aussi différents, comme j'ai pris une fois cette expression, qu'un flocon de neige et un sèche-cheveux, quoi. Il n'y a aucun rapport. Et pourtant, on va se rendre compte que dans le débat public, on arrive à les ranger dans la même catégorie, par exemple, de réac.
Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Marilyn Maezo, que cette difficulté grandissante à distinguer la droite et la gauche, à distinguer qui est libéral de qui est identitaire ou raciste, vient précisément du médium lui-même, des réseaux sociaux, de cette indifférenciation qui fait qu'on ne sait plus, et là on retombe toujours sur cette réalité de la crise de l'espace que manifestent les réseaux sociaux, c'est que ils aboutissent à une indifférenciation non seulement entre les idées, mais également entre les personnes qui finissent par ressembler à ce qu'ils dénoncent.
Oui, parce que c'est une indifférenciation qui en fait se fait en grande partie concernant les méthodes. C'est une indifférenciation des méthodes qui sont employées pour essentialiser l'autre. Les gens ne sont pas forcément d'accord sur le fond de leurs idées, ils peuvent même être en total désaccord. Par contre, ils emploient les mêmes méthodes. Par exemple, on va avoir des personnes qui vont dénoncer l'essentialisation, le fait d'être réduite à une identité dans laquelle elles ne se reconnaissent pas intégralement, ou à laquelle elles refusent en tout cas d'être limitées, mais qui le lendemain vont faire subir exactement la même chose à un adversaire idéologique. Et du coup, la méthode que l'on considérait comme inacceptable lorsqu'elle nous était appliquée, va être considéré comme parfaitement acceptable lorsque la fin justifie les moyens.
Alors ça, ça alimente, pour parler en clair, le racisme.
Oui, totalement. Prenons un exemple concret. Lorsqu'on dénonce le racisme, disons le plus classique, de l'individu qui, par exemple, s'en prend à une minorité, l'essentialise en faisant une menace pour la civilisation, en lui attribuant des caractéristiques infamantes du type être sournois ou être voleur, ou être violeur, on a toutes ces images qui reviennent régulièrement, mais on retrouve exactement le même phénomène, y compris au sein des populations stigmatisées de la sorte, à travers notamment l'emploi d'expressions elles aussi infamantes, telles que l'arabe de service, ou le collabeur, ou le nègre de maison. C'est-à-dire que parmi les populations qui subissent le racisme, on a un phénomène où un individu qui, par exemple, serait noir, mais qui ne tiendrait pas le discours dont on estime qu'un noir est censé le tenir, va être catégorisé comme étant un nègre de service, c'est-à-dire un nègre qui finalement a trahi sa propre race en tenant le discours de l'ennemi.
C'est ça. Donc il n'y a plus d'issue, il n'y a pas de possibilité d'échapper à ce statut. Et c'est aussi frappant, c'est que dans ce débat public, dans cette parodie de débat public, je devrais dire, il y a quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de traits de notre monde contemporain, c'est cette idée que tout est signifiant. Tout est signifiant. Les propos, le texte de ce qu'on dit ne porte plus, mais immédiatement, si on dit ça, c'est que on en tire des conclusions. Et le contexte de dénonciation du langage, des propos, l'emporte sur le contenu même des propos.
Totalement. C'est ce qu'on appelle le procès d'intention, qui est un phénomène qui tend à se généraliser, qui est la meilleure manière, en réalité, d'éviter que le débat n'ait lieu. C'est ce qui explique que très souvent les débats médiatiques sont joués d'avance. Hein. Quand on sait qui va parler, on sait ce qui va se passer parce qu'on sait quelle va être la stratégie de l'un et de l'autre, si vous voulez. Le procès d'intention, ça consiste à indexer la parole de l'individu et son contenu donc sur, par exemple, sa classe sociale ou sa couleur de peau ou son sexe ou sa sexualité, de manière à l'enfermer à l'intérieur de ces catégories pour rendre inaudible ce qu'il dit. Ce qui veut dire que, par exemple, si quelqu'un, disons, défend les droits LGBT, mais qu'on l'a identifié comme étant réac, eh bien, plutôt que de dire, il défend les droits LGBT, vu que ça ne colle pas, en fait, avec l'étiquette qu'on a voulu lui attribuer, on va trouver le moyen de tourner ça à son désavantage en disant, oui, mais il le fait pour se donner une bonne image. C'est le principe du procès d'intention. Donc, en fait, s'il ne les défend pas, c'est parce qu'il est insensible à la cause et c'est normal puisqu'il est réac. Par contre, s'il les défend, c'est parce qu'il a tout intérêt à se donner une bonne image, une vitrine progressiste, et donc ça prouve bien qu'il est réac.
C'est ça. Donc enfermé en quelque sorte, mais avec cette tendance à l'essentialisation, mais qui me semble, moi, encore une fois, cohérente avec, par exemple, avec les sciences cognitives, avec la digitalisation de nos sociétés. À partir du moment où on considère que le cerveau fonctionne comme un ordinateur, on a enjambé cette distinction entre nature et culture, et ça veut dire que l'homme est réduit à un objet, en quelque sorte. Le cerveau est réduit à un objet qui fonctionne, et on n'est pas loin de l'essentialisation.
Oui, ça c'est un phénomène que Sartre avait très bien décrit dans L'être et le néant, lorsqu'il décrivait le désir d'être objet, en fait. La manière dont les individus, vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres d'ailleurs, ont cette tendance à vouloir se fabriquer à eux-mêmes et aux autres une essence, dans laquelle ils peuvent s'enfermer, à laquelle ils peuvent s'identifier intégralement, ce qui du coup permet de ne pas avoir à tenir compte du caractère extrêmement vivant d'un individu. Un individu, ça se construit de la naissance à la mort.
Oui, puis un individu, c'est complexe. Il peut avoir des paradoxes.
Totalement, mais le problème, c'est que quand le but, ça n'est pas de connaître quelqu'un, mais de le juger, automatiquement, si on fait intervenir toute la complexité de l'individu, ça risque de diluer le chef d'accusation. Pensant, par exemple, à la scène du procès de Meursault dans L'étranger de Camus. Cette manière manière que le procureur a de fabriquer ce que Camus appelle l'âme criminelle.
Oui.
Meursault, en fait, ça suffit pas de dire qu'il a tué quelqu'un ou un arabe, en l'occurrence sur la plage. Il faut essayer de faire coller cet acte avec une essence qu'on veut lui attribuer.
Oui.
Donc du coup, on va aller chercher des choses qui n'ont rien à voir avec l'acte pour pouvoir fabriquer l'image d'un monstre. Pour justifier derrière l'idée de la nécessité de l'anéantir.
Quand les hommes n'arrivent plus à faire de l'histoire ensemble,
oui.
Il ne leur reste que des destins et des destins individuels. Et finalement, ce que veut montrer le procureur dans Meursault, dans L'étranger, il veut montrer que Meursault allait nécessairement tuer l'arabe, que c'était en quelque sorte inscrit dans une logique très profonde, parce qu'il va au cinéma après la mort de sa mère, et il y a cette reconstruction qui le prive de toute liberté. Mais on pourrait dire un peu la même chose du débat public aujourd'hui. J'entends par là sur le débat sur le colonial, le décolonial, ou sur les minorités, comme si le fait d'appartenir à une communauté victimisée était supérieur, était plus forte que la qualité de citoyen, qui est par définition l'aptitude à contribuer collectivement à écrire une histoire.
Totalement, et c'est ce qui crée un paradoxe, c'est même un déchirement interne chez ces personnes, qui est qu'à la fois ces personnes dénoncent le racisme dont elles sont victimes, qui consiste à les essentialiser, qui consiste à les enfermer dans une identité étrangère, mais en même temps certaines personnes vont avoir le réflexe qui consiste à faire exactement la même chose en s'identifiant intégralement à ce qui fait leur altérité, en considérant que l'autre, en fait les autres, en l'occurrence la société française, les rejette et ne veut pas de leur différence.
Marilyn Maizeau, c'est quoi ? On ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est quand même une question qu'on se pose tout au long de cette semaine. Qu'est-ce que seraient les conditions d'un bon débat public à l'heure des réseaux sociaux ? On ne va pas désinventer Internet, on ne va pas désinventer les réseaux sociaux.
Déjà, et là-dessus j'ai évolué par rapport au moment où j'écrivais le livre, mais c'est normal puisque j'ai mon expérience des réseaux sociaux s'est un petit peu nourrie. Je pense que déjà il faut arrêter de croire que les vrais débats, les grands débats, les débats effectifs peuvent se produire sur les réseaux sociaux.
C'est pas possible.
De toute façon, le phénomène de polémicisation permanente qui a lieu sur les réseaux sociaux, qui fait qu'à chaque fois qu'on essaye de manière honnête de lancer un débat de fond, il va y avoir toutes ces interférences, tous les cris, l'essentialisation, les insultes, qui vont faire que de toute façon le débat n'aura pas lieu. Donc je pense que les réseaux sociaux ne donnent pas finalement les conditions de possibilité d'un vrai débat, et qu'il faut essayer de restituer au débat sa spatialité, son cadre et ses repères. De ce point de vue-là, un vrai débat peut avoir lieu par exemple dans le domaine médiatique, sur un plateau médiatique, mais il faut que les médias cessent de prendre comme modèle de débat ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un phénomène, si vous voulez, de vaste communicant.
Bien sûr.
Il y a, quand on parle de twitterisation,
voilà. Quand
on parle de twitterisation des esprits ou des twitterisations du débat, c'est à ce phénomène-là qu'on fait référence, à savoir le fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de médias classiques qui ont tendance à privilégier le buzz et la polémique au débat.
Mais est-ce que ce n'est pas une impossibilité, une demande quasi impossible que de demander à des médias de se taire, Marilyn Maizeau ?
Pas de se taire, mais en l'occurrence de parler au lieu d'hurler.
Eh bien, merci beaucoup, Marilyn Maizeau.
Merci, Antoine Garapon.
Matière à penser, Marilyn Maizeau, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Justine Wilde, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous demain pour nous poser la question du droit au silence en compagnie de Ioannis Papadopoulos. À demain.